faire quelque chose d'un peu particulier. Je vais simplement lire avec vous un extrait de l'Épître aux Hébreux. J'ai eu l'occasion d'enregistrer ce cours dans le cadre de l'Institut théologique du soir à Paris. Et j'ai été vraiment béni à chaque fois qu'on réétudie. Il y a un angle d'attaque du texte qui est des fois différent. On découvre des choses. La parole de Dieu sans cesse nous éblouit et nous étonne. Et j'aimerais vous partager un petit peu ce que j'ai reçu par rapport à ce texte qui est à la fois très connu et en même temps l'Épître aux Hébreux. On a toujours des problèmes quand on lit ce texte parce qu'il y a des passages qui nous semblent des fois obscurs, qui nous des fois font peur. Il y en a qui utilisent certains versets pour alors qu'ils croient dans la perte du salut. Et donc j'aimerais simplement vous parler de certaines choses afin que nous soyons encouragés, nous chrétiens d'aujourd'hui, à ne pas tomber dans le piège dans lequel étaient tombés les chrétiens d'origine juive à l'époque, et puis que nous puissions être édifiés dans notre foi. Donc je vais commencer avec le chapitre 3, et donc je ne vais pas dire ce qui est dit auparavant, même si le verset 1 commence par « c'est pourquoi », mais lisons ensemble, donc Hébreux chapitre 3, à partir du verset 1. « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. » Donc là, déjà, une chose qu'il faut comprendre, il y a le contexte de l'Épître, il y a aussi le contexte des illustrations et des images que l'auteur va signaler, et puis il y a aussi les mots qui sont utilisés qui ont un sens. Et là, le mot qui est important pour comprendre la suite, il est question de la maison. La maison dont il s'agit là concernant Moïse, c'est qu'il a été fidèle sur toute sa maison, c'était la maison de Dieu, au milieu du peuple de Dieu. D'un côté, on pourrait dire qu'Israël, c'était la maison de Dieu, mais là, en l'occurrence, Moïse a reçu les plans pour construire le tabernacle, et donc il a été fidèle dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire là où il y a la présence de Dieu et une rencontre entre le pécheur et l'Éternel. Et Moïse a été fidèle en cela, c'est-à-dire qu'il a respecté les plans, il y avait un ordre, et parce que l'ordre a été respecté, la présence de Dieu pouvait se manifester, la Shekhina pouvait descendre du ciel et éblouir le peuple. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, le vrai Moïse en réalité, le vrai libérateur, est non seulement Jésus, celui qui construit la maison, c'est-à-dire qu'il est en train de bâtir un temple pour lui-même. Alors, nous, en tant que temple du Saint-Esprit, il nous sanctifie, il travaille dans notre vie. Et puis, il construit un temple qui est l'Église. Mais la particularité de Jésus par rapport à tous les autres prophètes, et notamment Moïse, c'est que non seulement Jésus construit la maison, mais en fait, il construit toute chose. Moïse est obligé d'utiliser les outils, le savoir-faire, la matière première qui était à sa disposition, alors que Jésus, il est le créateur de tout. Et donc, c'est en ça qu'il est supérieur. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'une maison, c'est lui qui crée le ciment, il crée l'eau, il crée le plâtre, il crée les briques, il crée les pierres, et il crée des maisons avec ça. Vous voyez, c'est comme si Dieu était en contrôle de tout, de A à Z. Tout le système de production est sous son contrôle. Et donc c'est en cela que Jésus est supérieur à Moïse, puisqu'il ne peut pas y avoir de faille. Il n'y a pas une pièce qui va casser, il ne va pas y avoir un manque de matière première, puisque Dieu suscite la foi, suscite les événements, prépare les œuvres d'avance, appelle ses serviteurs, le Saint-Esprit travaille dans la vie de ses serviteurs, il y a la souveraineté de Dieu, la providence de Dieu, l'autorité de Dieu. Donc Jésus règne, c'est pour ça que c'est un nom au-dessus de tout nom et qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Donc c'est une sécurité pour nous. Et c'est ce que l'auteur voulait dire aux croyants de l'époque, parce que ces croyants imprégnés par la pensée juive ne voyaient, eux, qu'un système d'œuvre où il fallait construire le temple, construire le tabernacle, amener des sacrifices, accomplir la loi. Donc ils vivaient un peu leur christianisme à l'ancienne, c'est-à-dire selon l'Ancien Testament. Et l'auteur de l'Épître est en train d'expliquer que en Jésus, on a tout en réalité. Mais en même temps, on doit prendre possession de ce tout, et c'est dont il va parler ensuite. Verset 3. « Car il a été jugé digne d'une gloire, » donc c'est Jésus, « il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, » que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer, Dieu a construit toute chose. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour en témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alors là, ce verset pose problème parce que certains y voient là une condition au salut, alors qu'en réalité il ne s'agit pas du salut, il s'agit du sacerdoce, c'est-à-dire de la fonction que nous avons tous dans la maison de Dieu. Donc dans la maison de Dieu, Moïse a été fidèle, il a fait bâtir cette maison et au-delà de ça, il a mis en place la prêtrise et les prêtres devaient officier d'une certaine manière. Donc tout devait être fait selon les ordres de Dieu, il a été fidèle dans sa maison et donc il a été jusqu'au bout, si vous voulez, de ce qui lui était demandé. Et il a accompli avec Dieu l'œuvre qui lui était demandée. Et il en est de même pour nous, c'est-à-dire que tout comme les Israël qui a été sauvé d'Égypte, nous avons été sauvés du malin. Et nous avons été transformés d'un royaume à un autre. Et aujourd'hui, on est dans le royaume du Fils de son amour. Et dans le royaume du Fils de son amour, il y a des choses à construire auxquelles Dieu nous invite à participer. C'est-à-dire qu'il est en train de construire sa maison. Et dans cette maison, il y a des prêtres. Rappelez-vous, selon Apocalypse chapitre 1 par exemple, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et donc nous sommes dans la maison de Dieu et à la fois nous avons tout et en même temps nous construisons avec Dieu. Et c'est là où il y a des fois un paradoxe qu'on a du mal à saisir parce qu'on a l'impression que les œuvres, enfin certains croient que les œuvres doivent compléter le salut alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de rentrer dans ce pourquoi Dieu nous a appelés et sauvés. Tout comme Israël n'a pas seulement été délivré d'Égypte, et puis voilà, faites ce que vous voulez. Non, c'est délivré d'Égypte pour faire quelque chose. Et donc, il avait été demandé à Israël d'être fidèle à l'appel de Dieu, à la délivrance de Dieu. La délivrance, c'est le tout. C'est le point de départ où il y a un esclavage, un asservissement, un joug trop lourd à porter, le malheur, etc. Donc, Dieu délivre son peuple de cela. Tout comme nous, nous avons été délivrés de la puissance du malin, nous avons été délivrés du royaume de ce monde, mais j'allais dire, et alors, c'est un peu comme imaginer j'avais jamais pensé à cette image, mais elle me vient maintenant, mais imaginons que vous soyez prisonnier, d'accord, vous êtes enchaîné dans une cellule, voilà, à la limite, on vous nourrit à la petite cuillère, vous pouvez rien faire, vous êtes prisonnier. Et puis on vous libère, c'est-à-dire qu'on vous enlève les chaînes, on ouvre la porte, vous êtes libre. Et vous sortez de la prison, et il n'y a rien. Un désert sur des milliers de kilomètres, il n'y a rien. Rien, rien, rien. Vous êtes libre, mais en même temps, vous êtes de nouveau dans une prison en réalité. Sauf parce que la prison est plus grande que la précédente. Mais ça reste une prison, il n'y a rien. Et en tant que chrétien, on n'a pas été appelé à ça. On n'a pas été appelé à être sauvé et puis après. Et alors ? Et alors ? Le problème, c'est que inconsciemment, même si on ne visualise pas comme ça, même si on n'imagine pas comme ça, beaucoup d'entre nous, et ça a été le cas dans toute l'histoire d'Église, on est ce que nous sommes encore faits de chair, dans le sens du terme, physique et spirituel, et la chair s'oppose aux choses de l'esprit. Beaucoup d'entre nous, des fois, nous sommes délivrés du royaume des ténèbres, et à un moment donné, on se retrouve avec rien. C'est-à-dire que il n'y a plus de promesses dans nos cœurs, on n'y croit plus, il y a beaucoup de déceptions, il y a des regrets, donc on pense au passé, mais l'avenir est fait de rien. Et comme on continue de vivre, qu'est-ce que l'on fait ? On remeuble ce vide avec les choses passées. Avec des anciennes façons de penser, avec des anciennes habitudes, avec des anciennes fréquentations peut-être, ce qui n'était pas forcément pieuse. On revit avec nos soucis d'antan. C'est le côté naturel de notre existence qui prévaut, parce qu'on ne peut pas rester sans rien. Et On a été délivré, donc on n'est plus dans cette prison où le diable nous enchaînait, c'est-à-dire qu'on a été éclairé, nous sommes sortis, mais dans cette liberté qui est la nôtre, on est en train de placer des jougs et de nous asservir de nouveau. Et c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, dans le livre des Nombres, c'est-à-dire que le mode de pensée du peuple était encore lié au passé en Égypte. Ils avaient cette mentalité d'esclave, de crainte, de peur. Et donc, ils en sont à avoir même un discours aberrant que nous pouvons avoir aussi. C'est pour ça que ça me sert d'exemple. Du style, si Dieu nous a délivrés d'Égypte, c'est pour nous faire mourir. J'allais dire, et alors, enfin, où est la logique là-dedans? C'est que, en Égypte, vous alliez mourir aussi. Donc, c'est pas rationnel comme pensée. Mais ils y croyaient. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas ce qu'ils voulaient, etc. Donc on voit le peuple de Dieu en permanence regimber, grincer des dents, etc. Parce que la délivrance vis-à-vis de l'Égypte ne leur suffit pas. Ils se rendent bien compte qu'ils sont dans le désert et qu'ils manquent de certaines choses. Donc ils sont dans la crainte en disant « mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie ?» Le seul problème, c'est que l'appel de Dieu, ce n'était pas de vivre dans le désert. Ce n'était pas de pourvoir dans le désert, même s'il l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il aime son peuple. Mais le but de Dieu, c'était pas de les faire vivre dans le désert. Le but, c'était d'aller en terre promise. C'est là qu'il y avait la bénédiction. De la même manière que Dieu nous a délivrés pour vivre en nouveauté de vie. Par exemple, j'ai été peut-être esclave et j'ai souffert à cause de, je sais pas, d'une relation passée, des gens qui m'ont fait du tort, un manque d'amour dans ma famille, peu importe. Donc, j'ai peut-être eu l'impression d'avoir jamais été utile dans l'existence ou de pas être aimé, etc. Mais aujourd'hui, avec mes pensées renouvelées, je sais que je suis aimé d'un amour éternel. C'est-à-dire qu'avant même d'exister, Dieu m'aimait. Dieu se réjouissait de mon existence. C'est, alors, quand est-ce qu'il arrive, Michel? Parce que Dieu savait d'avance que j'allais être placé en Christ, en son Fils, et que j'allais être participant à la nature divine. Et donc, il y avait une espérance en moi. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, Dieu avait foi en moi, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. De la même manière que Dieu a foi en vous, en nous, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est cette confiance-là, la confiance de Dieu, le chef et le consommateur de notre foi dont nous avons besoin. Évidemment que si on essaie de croire en soi, c'est au bout d'un moment décourageant si on est tant soit peu objectif. Donc nous avons besoin d'espérer dans ce que Dieu va continuer de faire. C'est-à-dire, pour reprendre l'image de l'Exode ou de Nombre, Dieu m'a délivré d'Égypte. Et là, on va poser une question. Et alors? Et alors, Seigneur, quelle est la suite? Et alors, c'est toi qui vas continuer. L'œuvre que tu as commencée, tu seras fidèle de l'accomplir jusqu'à la fin. C'est-à-dire, c'est pas le « et alors » en moi, ou « et alors qu'est-ce que c'est que ce désert ?» C'est « j'ai confiance dans celui qui m'a appelé, qui m'a sauvé, et regarder le désert ne m'impressionne pas, parce que je sais qu'il y a un après, qu'il y a une destination, qu'il y a un but. » De façon, pour voir aussi autrement, on peut, d'une certaine manière, des fois voir notre expérience, je dis pas que spirituellement on est off ou autre, mais la vie sur la terre, même quand on est rempli de l'esprit, elle est quand même pas toujours facile. D'accord? Faut reconnaître. Moi je trouve normal qu'un chrétien soupire après autre chose dans l'existence. C'est pas être charnel que de penser et d'expérimenter ça. Si on se complaisait entièrement dans ce monde, ça veut dire quelque chose qui va pas. Donc faut pas se culpabiliser de cette impression qu'on a dans l'existence. Il y a quelque chose qui va pas, on le sait très bien. Mais j'allais dire, moi je sais qu'il y a un autre monde qui m'attend là-haut. Donc, il y a une destination. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est de regarder à ce que Dieu va terminer. Ce sont des œuvres préparées d'avance. Ce qui fait que même si je vis quelque chose de difficile aujourd'hui, et je ne le nie pas, que ça soit dans ma désobéissance, mon endurcissement, mon aveuglement parfois que je découvre, les épreuves de la vie, etc., etc., la déception chez d'autres, mais dans la vie des autres, mais peu importe. La clé, c'est de dire que la vie ne va pas s'arrêter là, elle va continuer, et ce qui va continuer va être bien meilleur, et de loin, que ce qui a commencé. C'est-à-dire que le but de mon salut, c'est pas de vivre dans le désert. Et le problème des croyants de l'époque, là, dans l'Épître aux Hébreux, c'est qu'ils avaient très bien commencé. Ils avaient été délivrés et ils étaient, pour diverses raisons, je ne vais pas refaire tout le contexte de l'Épître, mais ils étaient retournés à la loi de Moïse, ils représentaient des sacrifices, ils retournaient au temple, ils retournaient dans la synagogue. Et donc, ils vivaient de nouveau dans la crainte, parce que vous savez, quand c'est vous qui devez assurer, vous avez peur. C'est un peu comme, je ne sais pas, si on vous demandait peut-être de faire quelque chose là dans la minute, vous auriez peur. Par contre, si vous êtes assis et que vous savez qu'on va demander à la personne d'à côté de faire quelque chose, vous, ça va, vous êtes dans le repos, hein, ce n'est pas vous qu'on va demander. Ben, nous, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que la confiance que nous avons, c'est Dieu qui va faire quelque chose. Et donc, on va être spectateur de ce que Dieu va faire. Et c'est ce qui va se passer 40 ans après, donc là je parle de la période du désert, 40 ans après, lorsque sous Josué, ils vont rentrer en Canaan, ça ne veut pas dire qu'ils vont rien faire, ils vont œuvrer, ils vont participer à la nature divine, et ils vont participer à l'établissement du royaume d'Israël, et en même temps, ils vont constater, regarder, être spectateurs de l'œuvre de Dieu, que ça soit à Jéricho par exemple, que ça soit la traversée du Jourdain, que ça soit la victoire contre les Amalécites ou contre d'autres, je veux dire, ils vont être participants à la puissance de Dieu au milieu d'eux qui leur permettra de vaincre les géants. 40 ans après, les géants, à mon avis, n'ont pas rapetissi, hein, je veux dire, 40 ans après, ils ne mesuraient pas 1m50. Josué n'a pas obtenu de victoire parce que les géants sont devenus des pygmées. Les géants sont restés les mêmes, mais la foi, la confiance en Dieu a changé. Le peuple, c'était pas le même, mais en même temps, voilà, ça restait des êtres humains ordinaires, je dirais pas très grands. Mais ils y sont allés en regardant à celui qui accomplit toutes choses. Et cette génération suivante, si vous voulez, a continué de participer à l'élaboration de la maison. La délivrance en Égypte, c'était le début, c'était le fondement de toute chose. Il fallait d'abord qu'il soit délivré. Et puis ensuite, on arrive en Israël et on établit le royaume. Et donc, il fallait être fidèle dans la maison de Dieu, que ça soit, alors après, la construction du temple, par exemple, mais aussi la construction de tout ce qui est autour du temple, manière de vivre, respect, le respect des lois sociales, familiales, etc., etc. Tout ça pour exprimer le caractère de Dieu. Et à partir du moment où le caractère de Dieu était exprimé, Dieu était glorifié. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Donc, transposition, aujourd'hui, dans ma vie, ce qui compte, c'est pas de savoir ce que je fais, mais est-ce que je glorifie Dieu dans ce que je fais? C'est tout. Donc, parce que je peux très bien faire une chose qui en apparence est bonne, mais vivre ce qu'on appelle comme vivant sous la connaissance du bien et du mal, mais ne pas avoir la vie en moi. Je peux faire des choses dites chrétiennes parce que je suis prétentieux, orgueilleux, ou à cause de la culpabilité peut-être, pour plein d'autres raisons. Mais ce qui compte, c'est de dire, voilà, aujourd'hui je prends des décisions devant Dieu, est-ce que je participe à la construction de cette maison. C'est intéressant, dans le texte de l'Épître aux Hébreux, il y a le mot, des fois c'est traduit en français, par collègue. C'est-à-dire qu'on est les collègues de Dieu. Vous voyez? On est aussi co-héritiers, ça nous servons. Donc, Christ l'édifie sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance, c'est-à-dire la ferme foi, tout comme il fallait la foi pour traverser la mer Rouge, et nous il nous a fallu la foi pour croire en Jésus-Christ. Le peuple d'Israël devait avoir la foi pour entrer en Canaan, donc il fallait qu'il continue d'avoir la foi, mais non pas pour garder le salut. C'est là où on se trompe dans l'interprétation de l'Épître aux Hébreux notamment. C'est que les gens pensent que conserver la foi, c'est primordial pour garder le salut. Non, conserver la foi, c'est primordial pour continuer l'œuvre qui a commencé, pour continuer cette participation à l'établissement du royaume de Dieu un jour. Et donc, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Là, c'est intéressant parce que ça doit nous aider un peu à avoir un regard sur l'existence. Il dit que nous retenions, et notamment la fin du verset, l'espérance dont nous nous glorifions. Il ne nous est pas demandé de retenir ce que nous avons acquis. Il ne nous est pas demandé de retenir ce que nous devons faire ou ce que nous avons fait. Il est dit de retenir l'espérance. C'est-à-dire que ça signifie qu'il y a des choses qui ne sont pas terminées. Ça signifie qu'il y a quelque chose à construire. Ça signifie que tout n'est pas parfait. Vous pouvez construire une maison. Alors vous allez me dire, oui, mais si c'est Dieu, ça doit être parfait. Je m'explique. Imaginons que vous construisiez une maison et que vous ayez le niveau parfait, le compas parfait, les briques, les pierres parfaites. Tout est parfait. Et vous commencez à faire les fondations et le premier étage, enfin le rez-de-chaussée par exemple. Tout est parfait. Il y a un contrôleur qui vient, un inspecteur des travaux, tout est parfait. Mais si le chantier s'arrête là, la maison n'est pas parfaite. Donc, tout est construit correctement, mais si on vous donne les clés, tu vas dire, maintenant, où est la porte, où est la serrure, où sont les fenêtres, hein, ça te parle, j'imagine. Donc, je veux dire, tout est parfait, mais ce n'est pas parfait, parce que ce n'est pas achevé. Et bien, de la même manière, l'œuvre de Dieu est parfaite aujourd'hui. Et on se dit des fois, l'œuvre de Dieu est parfaite, regarde-lui là, ou regarde-moi, ou regarde notre Église, regarde la situation, regarde le monde comment il est, et il y a des choses qui ne vont pas, on est d'accord. Mais Dieu dit, attends, tout ce que je fais est parfait, mais ce n'est pas terminé. Et là, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas terminé. Tout comme lorsque Josué a traversé le Jourdain avec l'armée, c'était déjà une étape importante quand même, par rapport aux 40 ans précédents, aux 40 années précédentes. C'était bien déjà. Mais si ces terres étaient là, ça n'aurait pas été terminé non plus. D'accord ? Il y avait d'autres territoires à conquérir après. Et d'ailleurs, territoires qui n'ont jamais conquis complètement. Ça a été ça leur erreur. C'est qu'ils n'ont jamais pris possession de toutes les promesses. Et on voit, vous rappelez, à la fin, à un moment donné, ils ont conquis quand même une bonne partie de Canaan, et ils doivent partager le territoire. Et vous avez Caleb, qui avec Josué avait été un des deux espions qui avait conservé la foi. Caleb, qui a plus de 80 ans, il dit à Josué, la montagne, là, on ne l'a pas encore prise, laisse-moi y aller, je la veux. Parce que Caleb avait compris qu'il fallait prendre possession de ce que Dieu avait promis. C'est-à-dire que ce n'était pas terminé. Donc, malgré son âge, il y avait quelque chose à faire encore. Il n'était pas à la retraite. On sera éventuellement à la retraite quand tout sera terminé. Alors, vous allez me dire, oui, mais on prêche souvent dans nos églises l'œuvre accomplie. Je vais vous en parler après. De leur accompli. On continue au verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc la révolte, c'est quand ils ont envoyé les espions et qu'ils ont douté. D'accord ? C'est cette période-là. Le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Et là, c'est intéressant parce que c'est une chose qu'il faut avoir à l'esprit. On peut voir Dieu être à l'œuvre, on peut voir Dieu à l'œuvre sans être forcément dans le plan que Dieu voulait au départ. Je recommence. On peut voir Dieu à l'œuvre sans forcément être dans le plan que Dieu voulait au départ. Le plan de Dieu, c'était qu'il traverse le Jourdain et qu'il voit Dieu à l'œuvre en Canaan. Ils ont douté, châtiment. Ils ont tenté en disant à Dieu, mais Dieu, est-ce que tu es plus si puissant que ça? Pourquoi tu nous as amenés là? Je l'ai dit tout à l'heure, tu veux nous faire mourir, etc. Donc Dieu amène un châtiment. Vous ne rentrerez pas en Canaan, vous resterez dans le désert. Et du coup, dans le désert, ils ont vu Dieu à l'œuvre. C'est-à-dire qu'ils ont vu la manne tous les jours. Ils ont vu les souliers qui ne se sont jamais usés. Ils ont vu les vêtements qui ne se sont jamais usés. Ils ont vu la protection de Dieu, la Shekinah au milieu du peuple. C'est-à-dire qu'ils ont vu Dieu à l'œuvre. La seule chose, c'est qu'ils étaient dans le désert. C'est-à-dire que Dieu n'abandonnera jamais les siens. Et ce n'est pas parce que Dieu ne nous abandonne pas qu'on est dans le plan de Dieu et que tout va bien. Vous voyez le point ? C'est que des fois, on a tendance à se justifier de nos œuvres devant Dieu, ce qui est un tort, mais des fois, on se justifie par rapport en utilisant les œuvres de Dieu. On en voit bien, Dieu est à l'œuvre, donc je suis dans son plan. Non, 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 Dieu est à l'œuvre parce qu'il est miséricordieux et qu'il est lent à la colère et qu'il nous aime, il nous fait du bien. Il ne nous abandonnera jamais. Néanmoins, on reste dans le désert et il est à l'œuvre. Il y a des miracles. Il y a des fois des châtiments, il envoie des serpents. Et puis il y a un miracle, regardez le serpent d'airain, l'œuvre de Christ, et vous êtes sauvés. Le venin ne vous touche plus. Dieu est à l'œuvre. Ce n'est pas une œuvre humaine. Mais pourtant, ils sont dans le désert. Donc oui, il faut faire attention de ne pas essayer de dire « Ah ben, Dieu répond à mes prières, par exemple, c'est peut-être une grâce qui nous est faite, c'est très bien. » Tout comme le peuple de Dieu dans le désert était sous la grâce de Dieu. C'est par grâce qu'ils ne sont pas morts plus tôt. Ils auraient pu mourir en une semaine. Ils sont morts dans le désert, mais il y a eu quand même une autre génération qui a grandi. C'est-à-dire que Dieu a continué à être fidèle à Israël. Et donc ça, c'est notre assurance extraordinaire. C'est nous avons un Dieu qui sera toujours au milieu de nous. Mais nous, on n'est pas toujours au centre du plan de Dieu. Et donc, ce que Dieu nous demande, c'est de rentrer dans ce plan qui a été préparé d'avance, d'être participant à l'élaboration de la maison. Le peuple de Dieu dans le désert n'a pas participé au plan de Dieu. C'est ça qui est malheureux. Ils étaient le peuple de Dieu pour l'éternité. C'était fait. C'est Israël. Mais ils n'étaient plus participants. Et ce n'était qu'une génération après que le peuple a été participant. Alors certains commentateurs disent, et je suis assez d'accord, c'est qu'en réalité, dans le désert, une nouvelle génération est née qui avait moins les pensées, la mentalité d'esclave, parce qu'ils n'avaient pas connu l'esclavage en Égypte. Et donc ça nous parle de la nouvelle nature, si vous voulez, d'une nouvelle vie qui, elle, a la capacité de traverser le Jourdain. Et nous, on doit s'appuyer sur cette nouvelle vie que nous avons reçue. C'est-à-dire que nous avons à la fois l'ancienne, c'est-à-dire le râleur, le celui qui doute, celui qui ne peut pas traverser le Jourdain, donc il est là. Et puis à côté, il y a la nouvelle nature. Moi, je suis la génération suivante. Et moi, je veux y aller, moi, je veux y aller, moi, je veux traverser le Jourdain. Donc la question est, qui je suis, du verbe suivre. Et si je suis celui que je suis en nouveauté de vie, je suis en communion avec Dieu. Verset 10. Aussi, je fus, alors c'est Dieu qui parle, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et là, on a quelque chose de très intéressant concernant le repos de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Eh bien, c'est ce que l'auteur va nous expliquer ensuite. Donc là, on va se concentrer sur la notion de repos. Qu'est-ce que le repos de Dieu? Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc là, c'est intéressant. Déjà, avant d'aller plus loin, est-ce que nous sommes aujourd'hui? Oui, nous sommes aujourd'hui. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un aujourd'hui aujourd'hui. Si je peux dire qu'on nous sommes aujourd'hui, c'est qu'il y a un aujourd'hui. Eh bien, Dieu nous dit, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit s'exhorter. Mais à quoi? À continuer de bâtir la maison, à entrer dans le repos. Aujourd'hui, il y a quelque chose à vivre. Vous voyez, il y a une attente, il y a une espérance. Ensuite, il est dit, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Là, il n'est pas parlé des péchés, il est parlé du péché, c'est-à-dire la nature pécheresse en nous. D'accord? Donc la séduction du péché, ça peut être « je suis trop vieux, je ne sers plus à rien, je suis fatigué, il y a le couvre-feu, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça ». Donc le péché nous fait râler, grincer des dents, au lieu de dire « Seigneur, je m'attends à toi ». Il y a quelque chose à prendre, il y a une possession à prendre, ça peut être dans mon âme, ça peut être une âme à côté de moi, c'est-à-dire évangéliser mon voisin. Ça peut être une prière à prier. Il y a quelque chose, parce qu'il y a un aujourd'hui. Verset 14. « Car nous sommes devenus... » Donc vous voyez que ça s'adresse à des chrétiens. L'auteur dit « nous », il s'inclut même avec ceux qui éventuellement désobéissent. Il dit « car nous sommes devenus participants de Christ ». Vous voyez, il ne s'agit pas du salut, il s'agit d'une participation. Tout comme dans la maison, le tabernacle par exemple, les prêtres étaient participants. Moïse était participant et nous sommes participants, nous sommes devenus participants. Mais en même temps, il faut le vouloir. C'est-à-dire que l'occasion nous est donnée de devenir participants, mais peut-être qu'on n'a pas envie de participer. Et car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Qu'est-ce que nous avions au commencement? Bon, on s'est convertis tous d'une manière différente, on a été évangélisés des fois différemment, on ne nous a peut-être pas raconté exactement tout le plan du salut quand on nous a amenés à Christ, mais globalement, en tout cas pour moi c'est ce qui s'est passé, sachant qu'en plus c'était une de mes interrogations premières, à savoir qu'est-ce qu'il y a après, quelle est la vérité. Pour moi, ça c'est personnel et il n'y a rien de spirituel là-dedans, c'est une réflexion personnelle liée à mon tempérament, ma culture, j'en sais rien. Mais pour moi, ce qui faisait la différence entre la religion et la philosophie, parce qu'il y a de la philosophie dans les religions, il y a des modes de vie, il y a des comportements, etc. Mais qu'est-ce qui différencie la philosophie de la religion? C'est que la philosophie doit nous aider à être plus heureux sur la terre, éventuellement la religion aussi. Mais la religion nous parle surtout de ce qu'il y a après. Le philosophe, lui, ce qu'il y a après, c'est pas son problème, c'est pas son domaine. Donc pour moi, rentrer en religion, c'était surtout d'avoir une interrogation sur ce qui se passe après, parce que si je sais ce qui se passe après, ça peut conditionner mon avant. D'accord ? Par contre, s'il n'y a pas d'après, le avant, c'est-à-dire ce que je vis maintenant, est une finalité déjà. Donc j'en profite, je fais ce que je veux, etc. Mais si je sais que la finalité est après, et que cette finalité après dépend de ce que je vis maintenant, ben, je vais vivre différemment maintenant en vue de l'après. Donc quand j'ai découvert qu'il y avait la vie éternelle, le salut en Jésus-Christ, que le diable existait, que l'Église avait une vocation, que j'avais un appel particulier, ça a eu une application sur mon présent. Donc ça, c'est, je pense, en gros, quand on se convertit, c'est ça qu'on a en tête. C'est Dieu a pris soin de notre passé, de notre péché, et il nous donne une assurance. Pour l'éternité, on reçoit la vie éternelle, on va aller au paradis. Et puis, après, on s'aperçoit que le présent n'est pas facile à gérer quand même. Et on apprend aussi que dans la Bible, il nous est parlé du présent, comment se comporter. Mais en même temps, le présent n'est pas l'assurance absolue. Le présent, j'aimerais qu'il s'améliore, j'aimerais que Dieu réponde à certaines prières, j'aimerais rentrer dans le processus de sanctification, ce qui correspond au plan de Dieu. Mais je ne dois pas oublier le point final. Et des fois, on est trop le nez, même dans notre vie chrétienne présente. On a peut-être envie de suivre le Seigneur maintenant, mais on oublie l'espérance que nous avions au début. D'accord ? C'est un peu comme si quelqu'un est en train de marcher en direction d'un point, c'est-à-dire qu'il va aller dans une certaine ville, et puis au bout d'un moment, il est tellement concentré sur sa façon de marcher, là ce que je fais le bon pas, là ce que je... Donc, il regarde sa marche, ce qui fait qu'il se détourne de la bonne direction, et au bout d'un moment, il lève la tête et puis dit « Où je devais aller déjà ?» C'est-à-dire que la marche devient une finalité. Alors que la marche, c'est un moyen d'aller dans la bonne direction et d'être participant à la nature divine. Vous voyez ? Donc il dit « On est participant de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, donc c'est ce aujourd'hui qui est créé, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Alors là, j'aimerais vous parler, déjà, avant d'attaquer le chapitre 4, de l'incrédulité et donc le côté positif de la foi. Un des problèmes que nous avons des fois concernant la foi, encore une fois parce qu'on, immanquablement, on fonctionne dans un système d'œuvre personnelle, c'est qu'on pense que la foi est liée à nous. C'est-à-dire, je dois avoir la foi. Rappelez-vous la question que posent les apôtres à Jésus, « Augmente-nous la foi ?» Et Jésus dit, « Mais si tu as la foi comme un grain de moutarde, ça suffit. » Et j'ai lu une illustration qui m'a plu, que vous connaissez peut-être, mais voilà, j'ai envie d'en parler maintenant, qui image très bien ce que Dieu attend de nous concernant la foi. Imaginons que vous soyez, c'est l'hiver, vous êtes devant un lac gelé, c'est le seul moyen que vous avez de traverser, d'aller de l'autre côté. Sinon, vous avez perdu trop de temps à contourner le lac. Et donc, vous voulez le traverser. La question est-ce que la glace va se briser ? Et donc, vous hésitez, j'y vais pas. Si vous y allez, qu'est-ce qui vous permet de traverser ce lac sans encombre à la fin ? C'est la glace. C'est-à-dire que si la glace est solide, vous pouvez traverser. Si en revanche la glace n'est pas solide, elle va se fendre et vous risquez de mourir gelé. Donc en fait, l'assurance, c'est la glace. L'assurance, c'est pas ma marche. Et souvent, nous, on pense que la foi, c'est je suis devant le lac et ouais, on va y aller, ouais, on va y aller, Dieu fidèle. Mais on a confiance en nous. Et quand on a confiance en soi, on dit « donc j'y vais ». Le problème, c'est que je peux avoir confiance, mais la glace est toute fine, et je coule quand même. Ça parle des chrétiens que nous sommes parfois, où on est sûr qu'on est dans le plan de Dieu. Ouais, je vais prier avec foi, Dieu va répondre à ma prière. Et Dieu dit, non, mais ça, c'est pas mon plan, mon coco, la glace va se briser. Tu peux avoir toute la foi, la force naturelle que tu penses, mais comme t'es pas dans mon plan, eh ben, pataprac, la glace va se briser. En revanche, je peux être parfaitement dans le plan de Dieu, devant une glace d'un mètre de profondeur, c'est-à-dire que je suis sûr de traverser, mais moi, j'ai peu de foi. Je suis tout tremblant, j'ai peur, mais avec le peu de foi que j'ai, j'y vais. Et je traverse, est-ce que je vais aller de l'autre côté? Oui, pourtant, j'ai la trouille. Pourtant, j'ai peur, j'ai peu de foi. Mais ce peu de foi suffit pour que je traverse, parce que la glace m'a porté. Alors que l'autre a beaucoup de foi, soi-disant, mais en fait, c'est la confiance en lui. Et il se projette déjà en disant « mon rêve va se réaliser ». Mais en réalité, il s'appuie sur quelque chose de fragile, donc il tente à traverser. Et nous, on souvent mesure notre foi et on croit que Dieu va être content quand on a beaucoup, beaucoup d'assurance, alors qu'on peut avoir très peu d'assurance. La question, c'est est-ce qu'on obéit? Est-ce que j'ai confiance en lui? Et ça nous... L'exemple, ce qu'on voit, par exemple, c'est dans la tempête, c'est quand les apôtres sont dans la barque, là, il y a la tempête, ils croient voir arriver un fantôme, et quand Pierre s'aperçoit que c'est Jésus, il a envie d'exercer cette foi qu'il a en Christ, pas en la sienne, c'est-à-dire qu'il dit, si tu me dis d'y aller, j'y vais, c'est-à-dire qu'il a confiance en Jésus. Si Jésus dit, non, n'y va pas, tu vas couler, ok, et Jésus dit, vas-y, il a confiance dans la parole. Il n'a pas confiance dans ses aptitudes à marcher sur l'eau. Il est tellement conscient de Christ et de sa parole, c'est qu'il y va. Mais à un moment donné, il oublie, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder dans la direction, il commence à regarder à sa marche sur l'eau. Et là, en regardant à sa marche sur l'eau, il dit « qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et là, il commence à regarder à lui « qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et ce que je suis en train de faire, ce n'est pas possible. Donc je coule. Et il lui dit « homme de peu de foi ». Mais peu de foi dans le sens de foi en moi. Qu'on n'ait pas de foi en soi, ce n'est pas grave. En revanche, il pouvait. Cet apôtre n'a pas existé, apparemment, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais il aurait pu avoir un autre apôtre avec un tempérament moins solide que Pierre ou autre, en disant bon, ben, moi aussi je vais y aller, moi aussi, mais tout tremblant. Mais si cet apôtre avait comme ça posé les pieds délicatement, en ayant peur de lui-même en réalité, mais en ayant encore confiance à Dieu, celui-là il aurait peut-être été plus loin que Pierre. C'est-à-dire que ne mesurez pas votre foi en fonction du baromètre de vos émotions, mais mesurez votre foi en fonction du baromètre de l'obéissance. C'est-à-dire, Seigneur, moi là, cette situation, ça me paraît impossible. Je ne sais pas comment tu peux faire. Hein. Je vois pas comment tu peux faire. Je ne sais pas si tu es capable de faire quelque chose. Tu dis que tu t'appelles Dieu, mais là, même ça, je ne crois pas. Mais je te fais confiance. Et Seigneur, même si j'ai peu de foi, je n'ai pas l'impression que tu vas réussir, mais je te demande quand même de répondre à ma prière. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. J'ai un problème dans ma vie depuis des années, un problème de pensée, etc. Mais Seigneur, tu m'as sauvé pour accomplir quelque chose jusqu'à la fin. Et donc, je regarde à toi. Je tremble, j'ai peur, j'ai une petite foi naturelle, personnelle. Mais toi, tu es un grand Dieu. Il y a une glace très épaisse et ça, je le sais. Et même si je sais qu'elle est très épaisse, j'ai quand même peur d'y marcher. Je le reconnais, je le confesse, mais j'obéis. Et tu dis, bravo, bravo. Lorsque je suis faible, je suis fort. En réalité, il est fort, vous voyez, quand je suis faible. Donc, chapitre 4, verset 1. Craignons donc, il faut que je termine là peut-être, les 42. 3 minutes, d'accord. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle, en grec c'est cette évangélisation, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc la bonne nouvelle, en fait, c'est la délivrance d'Égypte, mais la bonne nouvelle, c'était Canaan. Vous voyez, c'est l'évangélisation, la bonne nouvelle, c'est tout. C'est pour ça que j'aime à dire, c'est Lloyd-Jones qui a écrit ça, et ça a été repris par John Stott dans La Croix de Jésus-Christ, où il dit qu'en fait, dans l'Église, on doit continuer d'évangéliser. C'est-à-dire qu'on doit continuer d'annoncer des bonnes nouvelles dans l'Église. Trop souvent, on annonce des bonnes nouvelles aux perdus, et aux chrétiens, on dit « mauvaise nouvelle, maintenant, il faut faire ci, ça, ça et ça, et t'as intérêt à marcher droit. » Voyez ? Non, non, il y a encore des bonnes nouvelles à entendre. Hein. Il y a plus de bonnes nouvelles pour les chrétiens que pour les gens de l'extérieur, je peux vous garantir. Donc, pour nous qui avons cru, alors là, la traduction n'est pas terrible en fait. C'est vrai que c'est un passé, mais en grec, c'est un passé qui a une continuité dans le présent. On aurait dû traduire, c'est plus proche du présent, pour nous qui croyons en fait. Alors, évidemment, on a cru un jour, mais il y a un prolongement. Pour nous qui croyons, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part aussi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Donc là, je vais juste terminer pour que vous compreniez un principe fondamental. Alors, vous pourrez lire la fin du chapitre 4 pour vérifier ce que je vais vous dire. Mais en fait, il y a trois repos, là, dans ce septième jour. Enfin, quatre, si vous voulez. Il y a le repos du septième jour, c'est-à-dire que quand Dieu a tout créé, il a dit, il n'y a plus rien à ajouter. Donc, il se repose. Ça, c'est le repos. Ensuite, il y a le repos dont il est question, là, dans le désert, c'est-à-dire que rentrer dans le repos de Dieu, c'est rentrer dans Canaan. Mais le sous-entendu, c'est pas un repos... j'ai plus rien à faire, je suis à la retraite, je suis sur une chaise longue. C'est qu'en fait, je rentre dans le plan complet de Dieu. Tout comme Dieu s'est reposé de ses œuvres après six jours, Israël devait se reposer de l'objectif initial, délivrance d'Égypte, établissement du royaume d'Israël pour glorifier Dieu au milieu des nations. Ça, c'était le repos qui était proposé, d'aller jusqu'au bout. Alors, quand est-ce que ce repos a été expérimenté et vécu pour les Juifs de cette époque-là, au temps de Moïse et peu de temps après. Il a été expérimenté 40 ans après. C'est-à-dire que quand ils sont rentrés en Canaan, même si je dis qu'ils n'ont pas conquis tout le territoire, ils sont quand même entrés dans le repos. Donc on pourrait dire, ok, il y en a deux repos. Il y a le repos du septième jour, Dieu a tout fait. Et puis il y a le repos de Josué, ils ont conquis Canaan. Voilà. Et l'auteur dit, si vous lisez la suite du chapitre 4, c'est expliqué comme ça, il dit, oui, mais dans un psaume, le psalmiste a écrit que « Aujourd'hui, ne soyez pas comme au temps de la désobéissance, entrez dans le repos. » Donc l'auteur dit « S'il y a un repos pour le peuple de Dieu au temps de David, ça signifie que le repos de Josué n'est pas le seul. Ça veut dire que les croyants au temps des psaumes devaient aussi entrer dans le repos. » Eh bien le repos, c'est le repos de la foi, c'est-à-dire de continuer sa vie, pas chrétienne à l'époque, mais de croyant, jusqu'au bout. C'est-à-dire de continuer à avancer dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que pour chaque croyant, il y a un repos qui nous attend. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où on va avancer pour rentrer dans ce que Dieu a pour nous jusqu'à la fin de nos jours. Par contre, il y a un risque, tout comme les croyants au temps de Moïse, c'est de s'arrêter en cours de route, ou comme au temps de l'Épître aux Hébreux, d'avoir bien commencé, ou comme pour les Galates, d'avoir bien commencé, et de s'arrêter en route, de ne pas entrer dans le repos. Ça ne veut pas dire ne pas faire d'œuvre, ou de ne plus être participant, mais justement, je suis reposé parce que, en tant que prêtre, par exemple, ma place est dans le temple de Dieu, et lorsque je dépose une proposition et j'intercède pour le monde, je suis dans le repos. Lorsque je suis devant le chandelier, je suis en train de regarder la lumière, et en fait, nous sommes la lumière du monde, ça me met dans le repos. Lorsque je suis dans le, je m'approche avec confiance du trône de la grâce, je suis dans le repos. Lorsque je prie et qu'il y a les herbes d'eau et une forme qui monte au ciel, je suis dans le repos. C'est-à-dire que je suis actif, mais parce que je suis en train de faire ce pourquoi j'ai été créé. J'ai été créé pour aimer mes frères et sœurs, j'ai été créé pour intercéder pour les autres, j'ai été créé pour pardonner à mes ennemis, j'ai été créé pour regarder devant et rejeter tout le passé et ne pas m'occuper de ça, je rejette tout ça en arrière et je finis la course, comme dit Paul en Philippiens. C'est-à-dire que c'est ça être dans le repos, c'est-à-dire qu'on est dans une course, mais dans la plénitude de joie, en fonction de cette espérance. Donc ça, c'est le troisième repos. Et pour les Hébreux, il y en avait un quatrième, c'était de dire, mais vous avez été sauvés par le sang de Christ, et maintenant, continuez dans le repos. Il y a un repos pour le peuple de Dieu, et si vous ne continuez pas dans ce repos et dans ces œuvres préparées d'avance, telles que ça nous est décrit en Éphésiens, on va être dans un désert. Donc on n'est plus en prison, on ne retournera plus en Égypte, le pharaon ne peut rien contre nous comme le diable ne peut plus nous toucher. Néanmoins, on est dans un désert. Et du coup, on va meubler notre vie par des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a dans le pays de Canaan. Et ça nous renvoie au premier repos. C'est qu'en réalité, le repos de Dieu le septième jour, le vrai repos de Dieu, vous savez ce que c'est? C'est quand Dieu a créé les cieux et la terre, le sixième jour, il a créé l'homme et la femme, il a dit « c'est très bon ». Et puis il s'est reposé. Alors vous allez me dire « mais, ouais, mais le chapitre après, Adam et Ève, ils chutent. Mais je suis dans le repos, je le savais. » Ben oui, mais le serpent, il agit. Oui, je le sais, mais il va aller en enfer dans le lac de feu. Je suis dans le repos. Oui, mais que va devenir le monde? Regarde, tu vas être obligé de provoquer le déluge. Oui, mais Noé trouvera grâce à mes yeux que je suis dans le repos. Oui, mais alors après, qu'est-ce qui va se passer? Et on continue, et on continue. Et en fait, dans ce repos, il y a mon fils viendra et vous arrachera de toute malédiction. Je suis dans le repos. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai commencé, je le terminerai, je suis dans le repos. Je ne vais pas désobéir à mes propres projets. Je vais bâtir une maison. Je vais préparer une épouse pour mon fils. Ce que j'ai commencé, je l'achèverai jusqu'à la fin. Je suis dans le repos. Là, j'ai créé un environnement pour que mon image s'exprime au travers de l'humanité. Et j'ai créé un environnement où mon fils, qui est pour l'instant avec moi au sein de la Trinité, va mourir. Je vais l'envoyer dans ce monde que j'ai préparé. Et l'œuvre est accomplie. C'est la nuit immolée avant la fondation du monde. Et je vais demander ensuite à l'humanité tout entière qui a péché, parce que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, de rentrer dans ce repos, le repos de l'œuvre accomplie, le repos des œuvres préparées d'avance, le repos qu'il y a en Christ. Donc moi, je sais que sur cette terre, il y a pour l'instant un Éden, ça va être ensuite un cataclysme. Je vais même, selon la deuxième épître de Pierre, par le feu, détruire cette pierre et créer des nouveaux cieux et nouvelles terres. Je suis dans le repos. Je veux dire, Dieu a plein d'espérance, il n'est pas déprimé, il sait ce qui va se passer. Il y a une maison, il nous prépare une place. Et donc nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes participants à l'élaboration du plan de la rédemption afin de glorifier Dieu au milieu d'une génération perverse. Et je préfère parler de Christ que de la génération perverse. Je préfère parler de Christ plutôt que de parler de moi. Je préfère parler de l'esprit plutôt que de la chair. Je préfère parler de la lumière que des ténèbres. Je préfère parler de la sanctification et de la rédemption que du péché qui habite encore en moi. Parce que mon espérance, elle n'est pas en moi. Elle est dans la vision que j'ai de ma vie. C'est Christ, là, mon fondement et mon rocher. Et je suis caché en Christ et je m'appuie sur lui. Que Dieu bénisse.